Bonjour, aujourd'hui sur Radio Ondaine, nous recevons Roberto Mattei, référent laïcité et citoyenneté à la DTPJJ, la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Loire.
Dans le cadre d'un projet étudiant de Web Radio, il nous accorde un entretien pour discuter ensemble de cette notion si importante, la laïcité.
Dans cette table ronde radiophonique, nous allons découvrir son rôle, ses missions et sa vision pour comprendre en quoi les valeurs de la laïcité sont essentielles pour les jeunes.
Roberto Mattei, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter, nous dire un peu qui vous êtes ?
Donc, je m'appelle Roberto Mattei, je suis référent laïcité citoyenneté à la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse à Saint-Étienne, donc sur la direction territoriale de la Loire. Mon cursus est à la PJJ depuis 2006, j'ai d'abord été éducateur dans différentes missions, puis après responsable d'unité en insertion, et depuis le mois de janvier 2024, donc je suis sur cette fonction de référent laïcité citoyenneté.
Pourriez-vous nous dire d'abord qu'est-ce que la DTPJJ ?
Alors la DTPJJ, c'est l'instance de direction territoriale de la PJJ dans la Loire. Il faut savoir que la protection judiciaire de la jeunesse, c'est une fonction publique d'État qui est déconcertée. Donc il y a toute une structuration de l'État jusqu'à l'interrégion, au département et au territoire. Qui est administrative et hiérarchique. Et puis après, sur le territoire, il y a les différents services. Donc on a un service d'insertion, comme je vous l'ai dit juste avant. On a également des services qu'on appelle de milieu ouvert, qui consistent en des services d'éducateurs qui vont suivre les enfants là où ils sont, et puis des services de placement. Donc par exemple, l'UHC de Saint-Étienne. Ces différents services, donc, ils sont structurés de la même manière avec un directeur, un responsable d'unité et des éducateurs. Et toutes ces personnes, hiérarchiquement, dépendent de la direction territoriale. Donc le rôle de la direction territoriale, c'est d'animer le territoire et de faire vivre les politiques publiques qui sont les siennes au sein des différents territoires et d'assurer les missions de la protection judiciaire de la jeunesse.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le rôle d'un référent laïcité en général et le vôtre au sein de votre organisme ?
Alors, le référent laïcité citoyenneté, c'est un rôle un peu nouveau à la PJJ, il a été créé en 2015. Son rôle, c'est essentiellement de porter la promotion des questions de laïcité et de citoyenneté auprès des jeunes, mais également auprès des professionnels et des structures. Donc, je vous expliquais tout à l'heure qu'il y a différentes structures à la PJJ. En plus de ces structures, il y a aussi ce qu'on appelle les structures du service associatif habilité exclusif. Généralement qu'on entend souvent parler par exemple des CER ou des CEF, les centres éducatifs fermés renforcés, qui eux ne sont pas directement des structures de la PJJ, mais qui sont des structures qui exercent des missions exclusives de la PJJ. Donc tous ces services en fait vont être rencontrés par le référent laïcité citoyenneté sur des questions par exemple de comment on fait vivre la neutralité des agents tout en étant en capacité de discuter de faits religieux avec les enfants par exemple ou de phénomènes politiques ou voilà. La difficulté donc la neutralité on en parlera peut-être après c'est une conséquence directe de la laïcité qui fait que les agents publics et les agents non publics mais qui exercent une mission de service public se doivent en fait d'être neutres dans leur rapport avec les usagers, c'est-à-dire de ne marquer aucune préférence personnelle pour un système politique, une conviction politique, philosophique ou religieuse. Pour autant, comme c'est des éducateurs, ils se doivent aussi de pouvoir investiguer ces différents champs pour pouvoir accompagner les jeunes dans la compréhension qu'ils ont et puis leur cheminement personnel. Et l'idée, c'est de les accompagner, non pas en donnant son avis ou en donnant sa vision de qu'est-ce qu'il serait la bonne solution, mais plutôt en essayant de les faire réfléchir eux-mêmes à trouver la meilleure solution pour eux.
Et vous avez évoqué rapidement votre parcours quand vous êtes présenté. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment vous avez été formé au sujet de la laïcité donc pour ce poste ?
Alors, on n'est pas formé directement à la laïcité pour ce poste. C'est dans un parcours de professionnel, on a différents intérêts. Donc, on a un service de formation au cours de la vie professionnelle à la PJJ. Et on a le choix chaque année de suivre des formations. Et en fonction de nos attraits personnels, on va orienter plus ou moins nos formations sur des thématiques. Moi, la question de la citoyenneté, du vivre ensemble et de la laïcité m'ont souvent intéressé, donc j'avais déjà fait des formations dans ce cursus. Et un jour, le poste que j'occupe actuellement, il va paraître à ce qu'on appelle une mobilité. Donc c'est la fonction publique, donc il faut savoir qu'on a des mutations, voilà, c'est ça les mobilités. Et du coup, on postule à ce poste. Et puis, si votre cursus de formation et votre parcours professionnel correspondent aux attentes du poste, vous êtes sélectionné pour le poste. Et après, bien sûr, en cours de prise de poste, eh bien, il y a des formations aussi d'accompagnement à prise de poste et de mise à niveau.
Donc, en fonction des territoires, le poste de référent laïcité, il n'est pas obligatoire? Il n'y en a pas dans chaque DTPJJ, par exemple?
Alors, si, il y en a un sur chaque territoire. Alors, quand je vous ai dit les DTPJ, donc c'est direction territoriale, il se trouve que la Loire, c'est à elle seule un territoire, mais dans d'autres endroits, une direction territoriale, c'est deux départements, voire trois départements. Par exemple, on a Rhône 1, c'est un territoire, Drôme-Ardèche, c'est un territoire, ainsi de suite. Donc, dans chacun de ces territoires, il y a un référent laïcité citoyenneté. À la PJJ, on est, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais quelque chose comme 70 à 75 référents laïcité citoyenneté sur l'ensemble du territoire, en comptant les Outre-mer.
Donc, pour rentrer un peu plus dans notre sujet de la laïcité, est-ce que vous pourriez nous donner votre définition de la laïcité, ou tout du moins une définition ?
Alors, la laïcité, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la laïcité, c'est un principe constitutionnel, inscrit dans l'article 1er de la Constitution de l'État. Et ce principe, alors, on a souvent tendance à dire que la laïcité, c'est la loi de 1905. En réalité, la loi de 1905, le mot laïcité n'apparaît pas dans la loi de 1905. La loi de 1905 est une loi qui vient organiser les relations entre l'État et les Églises. Donc, si on veut une définition de la laïcité, il faut qu'on parle d'un principe juridico-politique qui garantit en premier lieu la liberté de conscience. Et cette liberté de conscience, ça inclut la liberté de croire, de ne pas croire, de changer de croyance, mais également de manifester ses croyances et ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public. Ça implique la neutralité de l'État, je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure, et également l'égalité de tous devant la loi, sans distinction de religion ou de conviction. Ça garantit le même traitement aux citoyens, qu'ils soient croyants ou non, ça garantit leur liberté d'expression, leur conviction, et ça garantit aussi l'exercice libre des cultes. Il faut savoir que on regarde, nous, la laïcité aujourd'hui de notre prisme en étant pris dans notre société actuelle, mais la loi de 1905, elle n'est pas prise dans une société française comme elle est actuelle. Et globalement, si on dit que la loi de 1905, c'est un peu le point de départ de la laïcité, en fait, historiquement, si on regarde l'histoire française, la laïcité, elle s'est construite au fil du temps, dans les relations qu'ont pu avoir les États, l'État français plutôt, et les Églises, et notamment l'Église catholique et Rome, dans des mouvements, en fait, d'émancipation ou de collusion parfois. Et petit à petit, cette recherche, c'est de faire en sorte que le religieux ne vienne pas impacter, en fait, la question du politique et la question de la gouvernance de l'État. Donc, quand on arrive en 1905 à cette question de séparation, la première des choses, c'est de faire en sorte que le clergé s'occupe du clergé et que l'État s'occupe de l'État, un peu chacun chez soi, mais également aussi l'idée que la France a été marquée par de nombreuses difficultés relationnelles entre par exemple protestants et catholiques. C'est essentiellement là-dessus que s'est axée la réflexion de pacification, en fait. Donc l'idée, c'est de permettre aux gens de convictions différentes de vivre ensemble sans pour autant se nuire les uns aux autres. Donc c'est sur cette base philosophique, en fait, qu'on va réfléchir petit à petit pour construire les premiers arguments de la loi de 1905. Alors, si on regarde historiquement aussi 1905, on est juste après l'affaire Dreyfus. Et concrètement, voilà, la France est un peuple qui se divise très largement sur les questions d'appartenance culturelle et culturelle. Et donc, on est dans cette ambiance-là, en fait, où on essaye de réunir le peuple français sur ces questions-là. Voilà, ça plante un peu le décor, et c'est important de le noter comme ça et d'expliquer un peu comme ça au regard de ce qu'on peut rencontrer comme difficulté, comme analyse qu'on peut faire dans la presse aujourd'hui sur les questions de laïcité, qui sont plus largement organisées autour des relations que vont avoir l'État en l'occurrence et les institutions avec peut-être certaines religions qui sont nouvelles dans le paysage français en termes de nombre. C'est-à-dire que l'islam, par exemple, n'existait pas beaucoup en termes de pratiques en France avant 1905.
Justement, selon vous, la laïcité a-t-elle évolué ces dernières années, et si oui, dans quel sens ?
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la laïcité, c'est un principe. Le principe en lui-même, il n'évolue pas. C'est le principe de liberté de conscience, Donc on a le droit de penser et de croire ce que l'on veut, qu'il s'agisse d'ailleurs de convictions religieuses ou de convictions philosophiques ou politiques, et ce principe il ne change pas. Pour autant, l'interprétation qu'on en fait et l'organisation politique qui va se jouer autour, elle évolue, en même temps que la société évolue. Donc la société elle va évoluer, comme je vous disais tout à l'heure par exemple, en fonction de l'abandon de certaines croyances, ou à l'inverse de regain d'intérêt pour certaines croyances. Ça c'est déjà une chose qui va changer dans notre société au cours des 50-60 dernières années. Mais il y a également en fonction du gouvernement politique qui va être en place à un instant T, on va vouloir, au gré des événements, essayer de donner une analyse, une interprétation de ce principe et de créer des lois en fait qui vont découler de ce principe pour organiser les rapports justement entre les citoyens, entre les cultes et l'État. Donc ça va changer au fur et à mesure du temps, et ça change tout le temps, j'ai envie de dire. Pour autant, le principe en lui-même de laïcité et de séparation des églises et de l'État et de liberté de conscience, lui, il n'évolue pas. Le principe la direction qu'on se donne, si vous voulez, elle n'évolue pas. Mais l'itinéraire qu'on prend pour atteindre la direction, lui, peut changer. Voilà, donc c'est important de l'avoir en tête aussi, de se dire que, par exemple, on ne parle pas de la même façon de la laïcité en fonction que l'on soit animé d'idéal politique plutôt à gauche ou à droite, ou à l'extrême gauche, à l'extrême droite.
Alors, toujours dans notre sujet, donc, est-ce que vous côtoyez des jeunes déjà ? Et d'après votre expérience, quelle est la perception générale de la laïcité chez eux ? Et pensez-vous qu'ils ont globalement une bonne compréhension de ce concept ?
Alors, des jeunes directement dans mon poste, j'en côtoie un peu, mais je côtoie essentiellement des professionnels. Sachant que mon travail consiste essentiellement à accompagner les équipes à la compréhension du principe, à l'application du principe de laïcité, à développer aussi des actions de promotion de la citoyenneté à destination des jeunes. Il se trouve que parallèlement, je mène quelques projets en direct avec les jeunes, et puis... De par mon parcours professionnel, j'en ai côtoyé beaucoup, donc j'ai tout à fait lisibilité en fait de comment les jeunes perçoivent cette question de laïcité. Déjà, dans un premier temps, on peut se dire que certains jeunes ont une compréhension de la laïcité qui pourrait être biaisée. On pourrait avoir des jeunes, par exemple, qui ont l'impression que la laïcité, c'est quelque chose qui est un principe contre les religions. Donc ça, c'est une compréhension qui est fausse. Cette interprétation, elle se fait souvent aussi sur la base d'une autre confusion, c'est que pour beaucoup de personnes, et là pas forcément les jeunes, j'ai envie de dire un peu la société dans son ensemble, il y a une confusion entre la laïcité et l'application de la laïcité au sein de l'école. Donc comme vous le savez, dans les écoles jusqu'au lycée, la question du port ostentatoire de signes religieux est interdite. Cette interdiction, elle n'a lieu que dans cet espace-là. C'est-à-dire que dans l'espace public, mais même dans une mairie, par exemple, cette interdiction, elle n'a pas lieu. C'est-à-dire que vous pouvez aller au tribunal en étant paré d'une grande croix, d'une kippa ou d'un voile, peu importe, enfin, d'un signe ostentatoire d'une appartenance religieuse ou cultuelle. Ça ne pose pas de problème, et c'est complètement ça le sens de la laïcité. La laïcité, c'est pas quelque chose qui est interdit, c'est quelque chose qui permet aux gens de vivre ensemble avec leurs convictions et l'expression de celles-ci. Mais comme il y a cette confusion, pour beaucoup, en fait, il y a des points d'achoppement où on se dit en fait que la laïcité, c'est quelque chose qui interdit de porter tel vêtement, qui interdit d'avoir tel discours. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc une partie des jeunes que l'on rencontre va avoir cette acceptation-là. Mais bizarrement, contre-intuitivement, j'ai envie de dire, beaucoup de jeunes, finalement, à la PJJ, ont une compréhension de la laïcité qui est presque parfois plus juste que celle des jeunes qu'on va rencontrer dans un milieu scolaire un peu plus classique. Certainement parce que, au travers des différentes institutions qu'ils fréquentent, ils sont confrontés très souvent à l'expression de ce principe dans le fonctionnement des institutions. Voilà. Donc entre les deux, effectivement, on voit bien qu'il y a une nécessité de travailler auprès de cette jeunesse, d'une part pour favoriser une meilleure compréhension de ce principe, mais surtout pour qu'ils en comprennent le sens. Et l'idée, c'est de revenir encore une fois sur à quoi ça sert. Et bien, ça sert à ce qu'on puisse vivre ensemble, avec nos différences, avec nos envies de croire ou de ne pas croire, nos idées politiques ou religieuses différentes aussi, et vivre ensemble avec tout ça, avec toutes ces différences-là, dans un mode relationnel qui est pacifié, qui supporte la vie de l'autre sans le comment je pourrais dire ça, sans le nier en fait, en l'acceptant pour ce qu'il est, et sans renier le sien aussi. Voilà, donc vraiment c'est important de travailler comme ça sur cette cohabitation des différents intérêts de chacun.
Écoutez, merci. Je crois qu'on voit vraiment les principaux enjeux de la laïcité dans ce que vous exposez. Est-ce que pour finir, vous pourriez nous dire en deux mots quelles actions concrètes vous avez l'occasion de mettre en œuvre à la DTPJJ? Quels sont en fait les outils, les dispositifs que vous mettez en place pour concrètement mettre en œuvre ce principe de laïcité et le faire comprendre, comme vous nous l'avez expliqué, aux jeunes?
Alors, dans un premier temps, la direction nationale de la DPJJ, elle met en place depuis maintenant pas mal d'années un parcours de formation obligatoire pour tous ses agents qu'on appelle valeurs de la République et laïcité, qui consiste en fait à expliciter très concrètement quels sont les enjeux en fait de la laïcité, de la neutralité également, et comment on habite une posture en tant qu'éducateur. C'est un peu l'enjeu que je vous disais tout à l'heure, comment on peut être éducateur tout en étant soi-même et rester neutre. Voilà. Parfois, conceptuellement, ça peut être une difficulté à comprendre. Donc, il y a déjà une formation voilà, qui est dispensée aux équipes et sur lesquelles on a des retours assez fréquents de la part des RLC sur les équipes pour continuer de bien accompagner les équipes sur cette question-là. C'est déjà un premier point. Ensuite, la DPJJ et la CALPRA également, qui est l'organisme qui anime l'ensemble du réseau des RLC, produit des outils. Dans ces outils, on a des jeux, par exemple, qui s'appelle Ilaïc, qui est un jeu de cartes comme un vrai faux. On a des incollables de la laïcité. Voilà, on a des médias ludiques pour travailler avec les jeunes. Et puis, au niveau des équipes, et ça va être différent sur chaque territoire, ça va être en fonction de l'impulsion que vont mettre les territoires, les RLC, et puis également les éducateurs sur place, on va avoir la mise en place de projets pédagogiques. Et ces projets pédagogiques, ils vont avoir souvent plusieurs visées. On peut avoir des projets qui vont viser à développer la citoyenneté, à développer par exemple la question du devoir de mémoire, ou à développer le vivre ensemble. Je peux vous donner quelques exemples comme ça. Par exemple, sur la Loire, on travaille actuellement avec un groupe de jeunes sur la guerre d'Algérie avec la France. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences sur nos générations, nous qui n'avons pas connu cette guerre, quelles sont les conséquences pour nous dans le vivre ensemble? Voilà, donc il y a tout un aspect mémoriel qui est développé, un parcours mémoriel qui est développé avec les jeunes. Et puis, on va essayer de créer une BD. Et dans cette BD, on crée une histoire. Une histoire, en fait, qui se passe un peu dans les années 50-60, et puis un peu dans nos années, avec des allers-retours entre 3-4 générations d'écart. Voilà, ça, c'est un premier truc. On va mettre de la créativité avec les jeunes, et puis on va leur faire créer des histoires. On va avoir un autre, par exemple, atelier qu'on a mené, qui était comment on va développer du pouvoir d'agir sur la question de la citoyenneté. Il se trouve que un groupe identitaire, le GUD, les GUD, avait fait un manifeste d'ultra-droite, donc c'est quelque chose de concrètement difficilement acceptable sur les valeurs de la République et du vivre ensemble. Ça, c'est pas la visée de ces publications. Et l'idée, c'est de partir de ce travail-là avec les jeunes et de leur dire, voilà, des gens peuvent s'exprimer comme ça. La laïcité permet aussi cette forme d'expression, tant qu'elle n'est pas... la seule chose qui limite cette liberté d'expression, c'est le trouble à l'ordre public et puis les discriminations. Donc tant qu'on n'est pas dans ce cadre-là, on peut s'exprimer. Comment nous, de notre place, on peut émettre un message qui vient contrebalancer ce message-là en étant dans les mêmes dispositions d'utilisation de notre droit à l'expression. Voilà. Et donc on va monter avec les jeunes, donc on va travailler par exemple sur Aristide Briand, qui est un des instigateurs de la loi de 1905 et qui est aussi également un ancien sénateur stéphanois. Donc on va travailler sur des phrases, des citations, et les jeunes vont essayer aussi d'ajouter à ces phrases et ces citations leurs propres expressions pour essayer de créer un manifeste du vivre ensemble. Et à la même manière qu'était monté le manifeste d'ultra-droite des GUD, on va essayer de faire ce texte qui finalement soit un texte plutôt cohésif ou qui vise à rassembler et qui vise en même temps à ces jeunes à s'exprimer et à comprendre que finalement on peut avoir une voie d'expression qui est légale, qui est utile et qui permette aussi de donner son point de vue sans en passer par des moyens qu'on aurait pu prendre plus directement en disant bah, en gros ces gens si ce qu'ils disent me plaisent pas bah, je vais les attaquer physiquement par exemple. Voilà. Donc l'idée c'est de leur faire comprendre aussi ce mécanisme, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un projet pédagogique qui est certes joli, intéressant et tout ça, mais c'est aussi leur faire comprendre en sous-main les principes de pour bien vivre ensemble, en fait, comment on fait pour s'exprimer ensemble les uns face aux autres, faire exister nos idées face aux idées qui ne nous plaisent pas, sans pour autant entrer sur de l'irrespect ou de la violence.
Roberto Mattei, merci beaucoup en tout cas pour ces réponses et pour ces éclaircissements sur un sujet important comme la laïcité.
Eh bien, je vous en prie.